Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Vraiment de rêve au Festival international du film de Toronto. Dans un instant, on retrouve Lady Gaga, Julia Roberts et le réalisateur Jacques Audiard au micro de notre envoyé spécial, Stéphane Boutsock. Après de sérieux ennuis de santé, Michel Legrand retrouve les studios d'enregistrement. Steven Bellery a pu suivre le compositeur en exclusivité. Nous allons l'entendre en plein travail sur Podane, qui va devenir une comédie musicale. Et puis nous jetterons un œil sur les programmes télé de ce soir avec Isabelle Morini-Bosque, un lundi étonnamment riche en films, nous dira notamment Isabelle.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Nous partons donc au Canada pour commencer, où nous attend Stéphane Boutsock. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Good morning.
Vendredi, Hello. Vous nous donniez... You want to answer in English, please?
I'll let you speak.
No, okay. Vendredi, vous nous donniez le programme alléchant du Festival international de Toronto. Ouais. Je crois que cette édition 2018 a vraiment tenu toutes ses promesses.
Ah ouais, en 4 jours, j'ai été emporté par le tourbillon de cet immense marché du film. C'est le plus grand du monde. 300 longs-métrages seront montrés ici, dont une trentaine de Français. Certains très attendus, d'autres vont trouver un distributeur. Et côté rencontre, c'est vrai, j'ai été pas mal gâté. Exemple hier matin, la conférence de presse de Lady Gaga, la diva de la pop, va vous impressionner en actrice dans A Star Is Born, oui. 2 et avec Bradley Cooper. Nouvelle version évidemment du film Une étoile est née, dans lequel elle incarne une jeune serveuse apprentie chanteuse qui va devenir une vedette grâce à une star de la country dont elle tombe amoureuse. La médaille, on le sait, à son revers. Ali, son personnage, découvre aussi les dangers de la gloire.
La célébrité est tout sauf naturelle. Certains succombent à la drogue, d'autres sont traumatisés. Pour moi, il est important d'entourer les artistes, de prendre soin d'eux psychologiquement dès qu'ils commencent à percer et que tout change. Vous pensez que c'est nous qui changeons, mais non, ce sont tous les gens autour de nous. Il faudrait être plus prévenant d'un point de vue humain, mais pas seulement envers les artistes. C'est valable pour tout à chacun. Intervenir tant qu'il est temps, apprendre la gentillesse, la compassion, comment faire face et être là pour l'autre, même quand il ne se rend pas compte qu'il est triste. Parfois, c'est si profond qu'on ne s'en rend pas compte. C'est essentiel et il me semble que le film aborde parfaitement cela.
Alors je peux vous dire qu'à l'écran il se passe vraiment quelque chose. Lady Gaga est impressionnante et puis vous l'entendez côté voix, les chansons qu'elle a écrites pour le film sont vraiment remarquables. On parle déjà ici de sa performance dans A Star Is Born pour les Oscars. Lady Gaga en parlait, le film évoque la manière dont un artiste a besoin d'être soutenu par ses proches et pour elle, écoutez, eh ben, ça a commencé toute petite.
Je me souviens très bien, étant enfant, être assise au piano en train de jouer une partition et entendre mon père assis dans le canapé, battant la mesure et me disant « Oui, c'est bien, les paroles sont bonnes, la mélodie aussi. Tu tiens un truc, là, il faut mettre le refrain. » Étant jeune, ça a été un véritable encouragement et le sentiment d'être une artiste a été crucial pour faire de moi la personne que je suis. Je ne sais pas qui je serais si mes parents ne m'avaient pas autant poussée à être créative. Le film parle aussi de ça. Il peut y avoir des centaines de gens dans une salle qui ne croient pas en vous, mais il suffit d'une et tout le reste change. Moi, je n'en serais pas là si Bradley n'avait pas cru en moi.
A Star Is Born avec Lady Gaga et Bradley Cooper. On en reparlera évidemment ça sort en France le 3 octobre. Le film est vraiment formidable.
Bon, on aura à peine une quinzaine de jours à attendre. C'est parfait. Trois semaines. Autre rencontre exclusive à Toronto, Stéphane, Julia Roberts.
Oui, la star de Pretty Woman renoue avec le registre dramatique d'Erin Brockovich. Rappelez-vous qu'il lui avait valu l'Oscar en 2000 dans le film qui s'appelle Ben Is Back. Elle joue une maman qui va devoir affronter le passé de toxicomane de son garçon, son fils, qui est de retour à la maison pour Noël. Film rude, noir, dans lequel Julia Roberts est vraiment bluffante de vérité. Pour elle, écoutez, il s'agit aussi de rendre hommage au courage et à la force de toutes les mamans.
Si je parle de ma mère que j'admire plus que tout, une des choses les plus importantes qu'elle ait fait pour moi en tant que parent remonte à l'époque où mes enfants étaient tout petits. Je me sentais totalement débordée avec ces trois gamins de moins de 3 ans et un jour, elle a appelé. Je lui ai dit « Maman, mon Dieu, mais comment tu as fait, toi ?» Vous savez, c'était une mère célibataire qui travaillait à plein temps alors que moi, j'ai le luxe de pouvoir rester à la maison, de m'occuper de mes gosses. Elle m'a juste dit « Ça s'appelle la garderie, ma chérie. Tu les déposes à 7h et tu les reprends à 17h. » Si vous saviez comme ça m'a libérée. Et je l'ai encore plus aimée de ne pas m'avoir dit « Accroche-toi, tu peux y arriver ». Je crois que chacun fait aussi bien qu'il le peut et c'est bien d'accepter que la maternité n'est pas qu'un conte de fées magique. À un moment donné, il faut penser à soi.
Julia Roberts, donc à l'affiche de Ben Is Back, date de sortie en France pour l'instant programmée en tout début d'année, juste avant les Oscars aussi d'ailleurs.
Alors Toronto, Stéphane, on l'a dit, c'est aussi un festival qui sert de rampe de lancement en fait sur le marché international.
Ouais, meilleur exemple cette année, Jacques Audiard, le français sacré samedi, meilleur réalisateur à Venise, est venu ici montrer les Frères Sisters, époustouflant western, avec notamment Joaquin Phoenix et Jack Gyllenhaal. Il pourrait bien refaire le coup de The Artist aux Oscars en mars prochain, tant le film a enthousiasmé la presse nord-américaine. Toronto, donc après Venise, avant sans doute cette longue saison des prix, j'ai demandé à Jacques Audiard comment il se sentait au début de ce marathon.
Oui, c'est fatigant, mais dans ces cas-là, on ne peut que bénir le fait d'être à tel endroit si c'est vertueux pour le film. Il faut bien se mettre dans la tête à un moment donné, si on est à cet endroit-là, on va fournir un travail le plus honnête possible, mais il faut le fournir, c'est tout. Voilà, c'est un passage obligé. Moi, le public américain ne me connaît pas. Et puis après, sur la trajectoire des Oscars, ça, j'en sais strictement rien. C'est un système que moi, je connais en tant que réalisateur de films européens, qui ont un statut bien particulier. Je n'ai jamais été dans le marché. Et donc, je l'ignore, mais totalement. Je ne sais pas quels sont leurs modes de fonctionnement, ce qu'ils attendent, ce qui les enthousiasme, ce qui les déçoit, je ne sais pas.
J'adore le cinéma, mais aussi la réserve de Jacques Audiard, cinéaste pudique, surdoué plusieurs fois césarisé, Palme d'Or à Cannes, il faut le rappeler. Les Frères Sisters, ça, ben là, ça sort très vite, c'est le 19 septembre, on en reparlera très longuement lundi prochain.
Puisque vous évoquez le cinéma français présent à Toronto, je crois que vous avez aussi croisé d'autres réalisateurs tricolores. Hein.
Oui, venu avec la délégation Unifrance, l'organisme qui promeut et diffuse notre 7e art à travers le monde. Ce festival canadien est désormais un passage obligé. Nos réalisateurs ne boutent pas leur plaisir. Deux exemples, Claire Denis, qui présentait hier soir High Life, son film de science-fiction avec Juliette Binoche et Robert Pattinson. Mais aussi Emmanuel Mouret, venu lui promouvoir Mademoiselle de Jonquière, film en costume sur la vengeance amoureuse avec Cécile de France et Édouard Baird.
Toronto, c'est les portes de l'Amérique. Donc symboliquement, oui, on se sent tout petit. En France, on dit vos films sont vraiment à part et très particuliers. Et dès que je suis à l'étranger, on me dit mais alors qu'est-ce que vos films sont français ? Alors je ne sais plus où me situer. Voilà.
Moi, je suis ravie parce que tous mes films sont venus ici. Je me sens protégée ici. Je me dis bon, voilà, c'est la vie du film. J'essaye de ne pas m'angoisser. Je suis tranquille, là. Beaucoup de joie.
Alors, je vous reparlerai de Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouret, ça sort mercredi. Le mot de la fin, Serge Toubiana, c'est le patron d'Unifrance et il résume parfaitement tout l'enjeu de Toronto.
C'est un chemin absolument indispensable quoi, pour nous, pour le cinéma français. On sait aussi que le cinéma français est en perte de vitesse sur le marché nord-américain. Donc voilà, Unifrance sert aussi à redonner un peu espoir aux troupes, c'est-à-dire aux exportateurs, aux distributeurs français qui sont là. Et puis, comme vous le savez, c'est aussi le chemin vers les Oscars. Quoi. Bon, donc, nous, la France, on a intérêt à réaffirmer un peu notre présence. Voilà. Je dirais que c'est même une nécessité pour tout le cinéma français. Voilà.
Et puis allez, avant de terminer, vous me permettrez un petit plaisir coupable. La projection, c'était samedi à minuit du nouveau Halloween. 40 ans après le premier épisode de la saga du tueur masqué, Jamie Lee Curtis était sur scène. Elle est de retour dans ce film d'horreur qui fait vraiment, je vous promets, très, très peur. Ça s'arrête en fait à la fin du premier film. On est 40 ans après. Oui. Écoutez l'ambiance dingue dans le vieux cinéma où était montré le film.
Jamie Lee Curtis !
Et là aussi... Je vous en reparlerai, là aussi j'en reparlerai parce qu'Halloween sort chez nous le 24 octobre et Jamie Lee Curtis viendra nous en parler à Paris. Voilà pour ce bilan assez dingue des 4 jours passés ici au Festival de Toronto. Le temps d'un dernier film ce matin et puis retour à Paris avec vous. On se voit mercredi matin.
Avec,
studio,
grand plaisir et vous êtes annonciateur que de bonnes nouvelles et de films qui nous font tous très envie.
Des choses épatantes, vraiment.
Merci infiniment Stéphane, merci d'avoir été notre envoyé spécial là-bas. On va s'intéresser à notre audience télévisée, nos audiences télévisées du week-end, en particulier hier soir. C'est ça, Isabelle ?
Oui, alors d'abord, on va dire que le week-end a été bon D'abord, pour le polar, vendredi, Les Petits Meurtres de la de Caracol devant les Ninja Warriors de TF1 avec 1 340 000 téléspectateurs de plus. Samedi, ce sont Les Meurtres en Cornouailles de la 3 qui devancent dans les mêmes proportions quasiment La Une et Jean-Luc Reichmann. Heureusement, M6 et le foot changent la donne hier. La rencontre France-Pays-Bas rassemble 6 610 000 téléspectateurs, quasiment 30% du public de tous âges. Et bien évidemment, un raz-de-marée sur le public masculin. C'est quasiment identique à la finale de la Coupe d'Europe en mai dernier. C'était Marseille, voilà.
c'est extraordinaire. Je suis toujours très au point, ça. Oui. Marseille Atlético, voilà.
Voilà, j'allais le dire.
Alors, dans l'ordre, dans quelques instants, on va avoir le grand plaisir de retrouver Steven Bellery, Peau d'Âne et Michel Legrand.
RTL Matin, laissez-vous tenter. Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Cette émission me dit « Ah, j'adore », alors je lui réponds volontiers. Oh oui,
c'est
nous aussi.
Sur une marque de purée.
C'est formidable. Et les compléments d'information de Madame Morini Bosque. Alors, une idée extraordinaire, merveilleuse de sortie à présent. Le Théâtre Marigny va donc rouvrir ses portes dans deux mois après 4 ans de travaux. Et c'est une création, une version scénique de Peau d'Âne que vous pourrez découvrir à partir du 14 novembre. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour.
Je vous
le
dis, j'ai déjà acheté mes places. vous avez assisté en exclusivité à l'enregistrement de la bande-son symphonique en compagnie du merveilleux Michel Legrand.
Michel Legrand, 86 ans et toujours à la baguette. Le compositeur de Peau d'Âne a repris du service. Hors de question de déléguer ce travail. Pendant 3 jours, il a notamment dirigé une cinquantaine de musiciens au studio Guillaume Tell à Suresnes, près de Paris.
4 mesures pour rien. Hein. Moteur, les insultes. Première. 1, 2, 3.
La musique du film de Jacques Demy a été réenregistrée avec grand orchestre. Alors il y aura bien 8 musiciens dans la fosse chaque soir, mais ils joueront en live par-dessus cette bande-son, ce qui donnera une véritable ampleur à la partition de 1970. Michel Legrand a travaillé tout l'été pour transposer sa musique du film à la scène. Le compositeur s'est mué en arrangeur et directeur musical, minutieux comme à son habitude.
Vous jouez pas la guitare, jouez-moi ce que vous jouez. Faut que ça change de temps en temps. 1, 2, 3.
Bon, alors la caisse claire, ah bon, ça va pas non plus.
J'aime pas du tout le son de la caisse claire. Elle fait trop circambulant. Je voudrais une plus grave et plus grasse. On reprend. Moteur. Les insultes. Deuxième. 1, 2, 3.
Cet enregistrement ne servira pas qu'à la scène, il devrait paraître en disque également, un exercice de quasi-recyclage qui amuse beaucoup Michel Legrand. Il n'a en effet presque pas amendé ses partitions qu'il appelle scores.
D'un côté, moi, c'est marrant parce que j'ai regardé les scores que j'ai composés en 70, ça fait quand même 40 et quelques années, 48 ans. Et alors finalement, je me disais, je vais réécrire les scores, parce que je suis sûr que ma technique d'orchestrateur a changé. Alors j'ai relu tous les scores, ben, c'est vachement bien orchestré. Alors, j'ai pas changé grand-chose. J'ai ajouté ici et là quelques trucs, mais c'est tout. Vous savez, c'est marrant, quand on écrit quelque chose, on n'oublie pas. J'étais content de mon travail de 70. Marrant, hein. Comme si c'était un élève à moi qui l'avait fait. Il passe en jugement maintenant.
Alors c'est assez stupéfiant de voir Michel Legrand encore et toujours au travail, Steven. Hein.
Oui, et surtout avec la même gourmandise et ce regard pétillant. De toute manière, pour le compositeur aux 3 Oscars, travailler est vital.
Vous savez, quand on est musicien, il faut écrire de la musique. Moi, si je n'écris pas, si je ne joue pas, si je ne suis pas entouré de musiciens formidables avec lesquels je joue, ma vie n'a plus de sens. La musique est en moi, elle m'accapare comme elle a toujours fait.
Donc d'avoir des projets, de créer encore et encore, ça vous aide à quoi ? À vivre, tout simplement ?
Oui, ça fait partie de ma vie. Un musicien qui ne musique pas, c'est personne. Celui qui a inventé la retraite est un criminel.
Michel Legrand m'a confié qu'il composerait peut-être quelques minutes de musiques inédites si le metteur en scène en a besoin. Il confesse toutefois être stupéfait par le fait que sa musique, ses compositions traversent les décennies.
Tous les amis, les copains que j'ai me disent « Mes enfants, chante la partition par cœur de début à la fin ». Ce film n'a pas eu un tel succès quand il est sorti en 70. Mais mystérieusement, 40 années après, il fait surface comme s'il avait nagé tout le temps. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Ce mystère, c'est très important. C'est-à-dire que moi, je suis très étonné que, par exemple, je n'ai pas vraiment d'actualité très forte en ce moment. Je n'ai pas écrit un opéra à nouveau, mais tous les concerts que je donne sont toujours pleins. Et je ne sais pas pourquoi. Entre une légende vivante et un vieux con, il n'y a pas beaucoup de différence.
Alors, quel bonheur d'entendre cette espièglerie, hein. Alors qu'au mois de mars dernier, Michel Legrand a failli mourir, Steven.
Oui, je lui ai donc simplement demandé comment il allait.
Très bien. Simplement, ça revient lentement. C'est-à-dire que, comme je suis resté à l'hôpital pendant plus d'un mois, sans bouger dans un lit, tous les muscles sont disparus. Donc il faut que mes muscles, des jambes, des bras, tout ça revienne. Alors j'y travaille et tout.
Ça vous a fait peur, ce moment ?
Oui et non. Vous savez, moi, j'ai pas peur de la mort, mais là, je l'ai frôlé. Hein. Et finalement, en la frôlant comme ça, c'est très curieux. C'est comme si on avait fait une répétition. Non, quand je sais très bien comment ça se passe, puisque je suis un peu mort et que j'ai vu le purgatoire, que j'ai vu tout ce qui se passait après, c'est intéressant pour ma culture, mais j'ai préféré ce qui s'est passé plutôt que de m'abandonner dans les bras de la camarde.
Alors, vous nous révélez également ce matin, Steven, le casting de Podane. Qui verrons-nous sur scène au Théâtre Marigny ?
Marie Aupert, 21 ans, sera Podane. On l'a vu dans plusieurs productions au Châtelet, notamment Les Parapluies de Cherbourg et La Mélodie du Bonheur. La retraitée de l'Opéra de Paris, la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot, jouera la reine du Royaume Rouge. Et Claire Chazal fera ses débuts au théâtre dans le rôle du narrateur. J'ai appelé la journaliste.
J'essaierai de faire le mieux possible au milieu d'une troupe importante. Nous serons une vingtaine sur scène. Et moi, j'arriverai modestement pour raconter l'histoire.
Et donc un rôle en plus qui va être fil rouge. Hein. C'est pas simplement qu'au début du spectacle.
L'introduction à la conclusion. Et je pense qu'il y aura effectivement quelques petites surprises au milieu du spectacle. Oui.
Je vous sens très sereine. Il n'y a pas de peur.
Si, si, forcément, je suis sereine là parce qu'on n'a pas encore commencé à travailler tous ensemble. Mais j'ai bien sûr conscience que c'est une nouvelle aventure, que c'est quelque chose de difficile, que moi j'ai touché à ça, ou en tout cas à la scène, lors de lecture, et je continue à le faire. Mais les lectures, c'est différent. D'abord, vous n'êtes pas avec une troupe, vous n'avez pas de partenaire. Jouer, dire, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne, qu'il faut que je travaille. Et évidemment, je ne peux pas cacher que j'aurai sûrement le trac à ce moment-là. Tout le monde a en mémoire les airs de Podane, la magie, la poésie, la beauté de cette musique. Moi, j'aime le spectacle vivant, c'est ce que je préfère. C'est un moment unique, c'est un partage que nous sommes seuls à ressentir.
Claire Chazal, donc, à retrouver dans Podane. C'est du 14 novembre au 17 février au Théâtre Marigny à Paris, billet à partir de 33 euros.
Je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manié quand
c'est... C'est la chanson de la fée qui est aussi la tante de Podane. Ça sera absolument merveilleux, moi j'ai hâte de voir ce spectacle. Et franchement, c'était très agréable d'entendre Michel Legrand en grande forme vous raconter les histoires de sa musique qui n'a visiblement pas vieilli. Dans quelques instants, la télévision, Isabelle Morini-Bosque, à tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Isabelle Morini-Bosque, on s'intéresse à notre soirée télévisée. Alors, j'ai vu que Mimi Mathy s'invitait ce soir dans Camping Paradis.
Tout à fait.
Sur TF1. Mais ce qu'on note également, c'est la diffusion d'un grand nombre de films.
Hein. Exactement. Et pas des nanars. On a ainsi sur la 3 Quantum of Solace, James Bondry de 2008 avec Daniel Craig et Mathieu Amalric. De la même période, 2009, on a sur C8 Terminator Renaissance, ça a été celle de Schwarzenegger. Et côté classique, on a sur la 5 Les Félins de René Clément, formidable polar de 64, dans lequel Alain Delon passe du statut de bourreau, en tout cas des cœurs, à celui de victime d'une machination. Moi, j'adore ce film avec aussi Jane Fonda, comme j'adore sur Arte, la comédie de Jean-Paul Rapneau, sortie 6 ans plus tard. Les Mariés... Non, vous non ?
Irrésistible.
Oui. Les Mariés de l'an 2 avec Marlène Jobert et Belmondo, éblouissant en aventurier qui, puisque le divorce vient d'être créé en 1787, veut divorcer de la femme qu'il aime pour épouser une héritière...
Musique de Michel Legrand.
Absolument. Une héritière qu'il n'aime pas.
Mais elle ne pouvait pas épouser un homme déjà marié.
Ça, c'est sûr.
Ah, t'es d'accord.
Arrête de bouger.
Mais tout bouge, mon moineau, tout. Regarde leur révolution, ça bouge.
Ils ne vont pas être à la 9, précisément. Et c'est suivi d'un autre classique de 1960 signé Fellini, La Dolce Vita, les dérives d'une société décadente vue par un journaliste People, joué par Marcello Mastroianni. Le scandale en a fait un énorme succès. Moi, honnêtement, je l'ai trouvé surtout longuet, mais c'est peut-être parce que je ne suis pas assez cinéphile.
À chaque fois, je m'endors, moi.
Ah, mais oui, moi aussi. Alors,
la scène dans la fontaine, ça m'ennuie. Alors, votre passion à vous, ça reste l'âme. Zemmour dans le Pré sur M6. C'est la fin du speed dating pour les agriculteurs.
Comme on dit, oui, après les portraits des candidats au bonheur en janvier et l'ouverture des courriers reçus depuis trois lundis, on a donc ce soir la fin des rencontres avec notamment le superbe sapiniériste breton Aymeric, 32 ans, beau comme un coucher ou un lever de soleil, au choix, ça dépend de l'heure, et record. C'est lui qui a reçu le plus de lettres toutes saisons confondues, près de 100. Il reçoit là une ravissante du sud-ouest et sa vanne, si j'ose dire, pour un breton.
Et ça ne serait pas peur justement de venir en Bretagne, là où il fait froid, dans le nord.
Non mais arrête, si. Il ne fait pas si froid.
Non, ça va.
J'ai lu qu'il ne pleuvait pas plus qu'à Bordeaux finalement.
À Bordeaux, il pleut beaucoup d'un coup, alors qu'en Bretagne, il pleut tout le temps.
Voilà. Aymeric a participé. S'il a participé, c'est parce qu'il trouve l'émission digne, belle, et que comme ça, une femme sait ce qu'il attend d'elle, c'est-à-dire beaucoup. Reste à savoir, sans dévoiler la suite, si l'émission lui a apporté ce qu'il en attendait et s'il la recommanderait à des paysans célibataires mais méfiants.
Est-ce que ça m'a apporté ce que je recherchais? Il faudra suivre l'émission jusqu'à la fin pour savoir. Et je regrette vraiment pas du tout mon choix de participer à cette émission. Si c'était à refaire, mais je le referais sans hésitation de suite. On est filmé tel que notre vie, elle est. C'est naturel, c'est simple et on est bien accompagné, c'est très humain. Les gens de la production nous appellent assez souvent pour savoir comment on se sent, parce qu'on est quand même un peu chamboulé avec les sollicitations après la diffusion du portrait, de filles qui vous contactent ou de personnes qui reviennent vers vous parce que vous passez à la télé. Donc c'est vrai qu'on est très bien suivi humainement, donc c'est très facile en fait. On se sent très à l'aise et après on va étape par étape.
Oui.
C'est extraordinaire comme profession.
Et le bonus, c'est l'existence d'une vraie chaîne d'amitié durable.
On s'appelle une à deux fois par semaine avec certains. Et quand il y a des moments un peu de doute ou des hauts et de bas, et ben tu vas plus maintenant vers ces gens-là plutôt que vers tes amis, parce que tes amis, ils peuvent pas savoir ce que tu ressens. C'est facile de dire oui, tu passes à la télé, t'as qu'à faire ci ou ça. T'es pas dans notre situation, donc tu peux pas nous ressentir ou comprendre. Et c'est vrai que les autres agriculteurs, tu te confies à eux aussi facilement qu'avec Karine lors du portrait. Il y a de belles histoires d'amitié, comme avec Thomas, Raoul, Daniel, avec qui je m'entends très bien, Tricou, Patrice, avec Aude aussi. Ben Aude, elle habite à 2 km de mon exploitation. Je la connaissais pas et depuis, ben on mange ensemble tous les 15 jours 3 semaines. Donc je sais que dans 5-10 ans, il y aura toujours des soirées, des amitiés qui resteront, ça c'est une évidence.
Oui, et son affection inclut l'équipe technique qui évite, si j'ose dire, d'y aller avec de gros sabots, qui a su se montrer délicate après 21h, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, il est devenu super ami avec des cadreurs et avec des preneurs de son. Impossible d'éviter en revanche les complications dues aux réseaux sociaux, c'est le vrai problème de l'émission. De plus en plus, dès la fin des portraits, les téléspectateurs court-circuitent la chaîne et contactent par elles-mêmes leurs chouchous, mais pas que.
Oui, j'ai même beaucoup de personnes aussi qui sont venues directement sur mon lieu d'exploitation aussi pour me rencontrer. Donc ça fait un petit peu peur. On rentre un peu là dans ton intimité. On se sent pas à l'aise. Quand c'est des filles qui viennent te voir, bon, ça peut encore passer, mais bon, faut aussi parler de l'égalité. Si j'étais une fille, que c'est un mec qui vient te voir, t'es dans ton champ et il commence à faire nuit, tu peux te poser un peu des questions et c'est pas très rassurant, non. Donc au moins, ces personnes qui sont manifestées de cette façon-là, elles sont un peu auto-éliminées parce qu'il y a un concept, c'est l'émission. Si tu veux me rencontrer, il fallait passer via l'émission. Après, que tu veux pas passer à la télé, très bien. Tu attends que ça passe à la télé. Et si à la fin de l'aventure, ça ne l'a pas fait pour moi, pour les autres, tu peux te remanifester. Mais en attendant, tu m'as rencontré grâce à la télé, ben, faut jouer le jeu et passer via la télé, quoi, c'est ça.
Voilà, donc et je comprends très bien qu'on s'intéresse à lui parce qu'il est vraiment intéressant. Et alors, on lui vole aussi des sapins de Noël. Mais bon, ça, c'est... On peut pas éviter, comme dit l'autre.
C'est ce soir sur M6.
C'est ce soir sur M6. Et 50 enfants quand même déjà. Donc quand on dit que c'est une émission de télé-réalité comme une autre, excusez-moi, mais 76 unions, 17 mariages et 50 enfants, ça en fait une émission pas comme les autres du tout.
Ne m'engueulez pas, Julien Courbet nous attend. Non, mais si, ne m'engueulez pas, on vous le demande. Allez, à tout de suite.
Je sais que vous intéressez à tout.
RTL Matin. Laissez-vous tenter.
Merci à toute l'équipe. Il est grand temps de retrouver Julien Courbet.
Comment allez-vous ? Bien, mais j'étais en train de discuter avec Maître Novakovic qui habite du côté d'Anguin, qui m'a expliqué que les joueurs de foot dormaient là-bas, je ne savais pas, les veilles de match.
Et alors, elle a dormi avec eux ?
Pour ce premier match, elle ne s'est occupée que de la défense. Mais le match contre l'Allemagne, apparemment, c'était plutôt les milieux de terrain. Donc elle attend le prochain.
Elle est formidable, elle les dorlote.
Vous avez vu, après le résultat, il est là aussi. Vous voyez, Olivier Giroud se met à marquer.
Ah ben Giroud, il s'est mis à marquer.
Oui, voilà. Remerciez-moi quand même.
Mais on vous remercie, on vous demande de continuer surtout.
D'accord.
Bon, tout va bien sinon ?
Ah ben parfaitement bon.
Écoutez, je vais essayer de faire mon travail. Alors je vous souhaite une belle. Voilà, alors il faut expliquer à Isabelle que j'adore, hein, je tiens à vous le dire, c'est ma journaliste préférée, qu'à partir de 30, elle n'est plus obligée, si vous voulez, qu'elle peut garder ses blagues pour... Ça va, ma Isabelle ?
Ça va très bien, je cherche mon stylo.
Ah, très bien.
Elle a un truc sur l'oreille.
Je vous rappellerai bien une blague que faisaient les nuls à l'époque, voilà. Mais je ne vais pas la faire. Oui. Merci beaucoup, bonne journée. Écoutez, là, j'ai envie de vous dire que le fond a été touché et que nous ne pourrons que remonter à partir de demain matin. Merci,
Henri.
Bonne journée.
Vous écoutez RTL.